RMC, Ligue de BKT, le débrief.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, focus sur les talents de demain. C'est le tout nouveau podcast d'RMC Sport lié à la Ligue 2 BKT. Chaque semaine, deux joueurs majeurs viennent analyser les journées qui viennent de s'écouler. Je vous rappelle le casting, Anthony Briançon, Daniel Congré, Romain Thomas, Gaëtan Weisbeck, Jordan Adeoti et Sébastien Salamonge. Et puis, cette semaine, vu que le championnat s'est arrêté, c'est le deuxième hors-série de la saison. Ça y est, la trêve Coupe du Monde a débuté. Nous allons en profiter pour faire un bilan des 15 premières journées de championnat avec 4 entraîneurs qui ont accepté de participer. David Guillon de Bordeaux, Stéphane Dumont de Guingamp, Olivier Guégan de Sochaux et Vincent Ognon de Grenoble. On va revenir ensemble sur leur début de saison respectif, sur les faits marquants de ce début de championnat et puis sur les talents RMC BKT de Ligue 2, les joueurs qui les ont impressionnés depuis le début de saison. Ligue 2 BKT, le débrief, c'est parti.
Oh, le but Guingampé! Le but Guingampé! Mais quel but magnifique, Gaëtan Courtet! Oh, le but bordelais! Dylan Bacroix sur ce très bon saut, belle action au milieu de terrain avec Josh Maja qui est trouvé entre les lignes, qui décale en une touche, Vital Nsimba. Nsimba qui la porte sur le côté gauche, il a pris la formation, il a bien levé la tête et il trouve à l'entrée de la surface de réparation Dylan Bacroix, plat du pied gauche, c'est parfait, 1-0 pour Bordeaux.
Le but grenoblois à l'instant même sur un coup de pied arrêté, c'est le défenseur central. Sur un coup de pied arrêté, ça part d'un coup franc et un deuxième ballon, il vient claquer une volée qui file sous la barre de Gauthier Larsonneur. Incroyable but.
Et l'égalisation de Kalou pour Sochaux, magnifique but. Franchement, il était bien lancé, il prend le dessus sur la défense, il croise bien sa frappe. Et c'est le petit filet intérieur droit qui trompe Gauthier Larsonneur.
RMC,
Ligue de BKT, le débrief.
Et voilà, 15 journées de championnat passionnantes qu'on a suivies sur RMC. Je rappelle le classement de cette Ligue 2. Le Havre est solide leader avec 32 points. Deuxième, Bordeaux avec 28 points. Sochaux est troisième avec 27 points. Ensuite, Grenoble avec 26 points et quatrième. Et puis, dans le bas de tableau, je rappelle que Nîmes, Rodez, Niort et Saint-Etienne sont pour l'instant en position de relégable. J'accueille tout de suite mes invités. Je vous remercie d'être là. Du coup, David Guillon, entraîneur de Bordeaux. Salut David.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. Vincent Ognon est là également, entraîneur de Grenoble. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à vous.
Olivier Guégan, le coach de Sochaux. Salut Olivier.
Salut à vous.
Et puis Stéphane Dumont, avec qui on a des petits soucis de connexion, mais qui sera avec nous dans une seconde. Stéphane Dumont, que vous connaissez bien, David, ça a été votre adjoint à Reims, hein, je crois.
Oui, c'est ça, oui, en effet. On a travaillé pendant 4 ans ensemble.
Et ben voilà, donc une bonne relation entre vous deux. On espère qu'on pourra le retrouver pour la suite de ce podcast. Démarrons, messieurs, par vos bilans respectifs. On va faire ça par ordre de classement. Et donc démarrer par les Girondins de Bordeaux, qui sont deuxième de Ligue 2. 4 points de retard sur Le Havre, 1 point d'avance sur Sochaux. David, pour l'instant, vous êtes dans les clous. L'objectif est toujours atteignable. Tout va bien.
Oui, on est sur cette partie haute du classement depuis pratiquement le début de saison. Alors c'est vrai que dans un premier temps, en toute honnêteté, c'est sans faire de preuve de trop d'humilité, mais on s'attendait pas à être tout de suite là-haut et comme on a commencé le championnat. Et là, ça nous a permis de nous donner un petit peu d'ambition. Et puis les garçons se sont accrochés à ces premières places, ce qui fait que, en effet, depuis le début de la saison, on est aussi dans les premières places. Et les garçons prennent du plaisir à y rester.
Vous avez un effectif jeune, David Guillon. Vous êtes beaucoup appuyé sur le centre de formation pour le début de saison avant que les recrues puissent enfin disputer des matchs de championnat. Vous avez senti cet effectif progresser de jour en jour ?
Oui, ça c'était quand on est entraîneur, c'est toujours agréable de voir son effectif progresser. Alors c'est vrai que j'avais énormément de jeunes joueurs du centre de formation qui nous ont rejoints avec pratiquement plus de 50% du centre. Et c'est vrai que les garçons ont tout de suite adhéré à notre travail et ils ont avancé de façon très, très significative sur ce début de saison. Ils ont pu jouer, ils ont emmagasiné de l'expérience et surtout ils ont performé très, très rapidement. Ils ont vécu aussi des semaines très chargées, ils ont fait toute la préparation avec nous et ils ont été à la hauteur sur ce début de saison. Donc on est vraiment content de les avoir avec nous. Après, il a fallu évidemment les entourer sur cette deuxième partie de première saison, si on veut dire.
Bon, je précise que Stéphane Dumont nous rejoint enfin. Salut Stéphane.
Bonjour.
Bon, on a donné la parole par ordre de classement à David Guillon, quoi. Guingamp et... C'était pas encore le tour de Guingamp. Voilà, ça arrivera après. juste un mot, justement, avant de passer aux autres clubs, David, avec vous. Il y a eu une série un peu plus délicate, là, pour terminer cette première partie de saison. C'était cette défaite à Nîmes et ce nul contre Pau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équilibre est aussi fragile et qu'il faut rester vigilant journée après journée?
Ouais, c'est vrai qu'on peut être déçu de n'avoir pris que un point, mais sur le contenu, notamment le dernier match, c'est certainement notre meilleur deuxième mi-temps depuis le début de la saison. Donc vous voyez, des fois le football peut être capricieux, mais il faut aussi qu'on réussisse à trouver des solutions quand on rencontre des équipes qui jouent très très bas. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage des jeunes joueurs pour trouver les solutions. C'est pas quelque chose de facile, mais on se doit d'avancer là-dedans. Dans le contenu, je suis satisfait, mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, on a manqué en termes d'efficacité, ça nous a pénalisé et ça a été insuffisant en nombre de points. Mais je suis convaincu que ces matchs-là vont nous servir par la suite.
Bordeaux est donc deuxième du classement de Ligue 2 avec 4 points de retard sur le Havre, 1 point d'avance sur Sochaux. On en parle donc avec Olivier Guégan, l'entraîneur sochalien qui est là. Olivier, c'est marrant pour vous parce que c'est un peu l'inverse, quoi. Le tout début de saison avait été un peu délicat avec un nul et 2 défaites. Et ensuite, ouais, vous avez fait preuve d'une grande régularité. Il y a eu notamment cette série de 6 succès consécutifs. Voilà, vous avez mis le temps pour trouver le bon équilibre. Et finalement, depuis, tout va bien, quoi.
Tout va bien, tout n'est pas linéaire, mais ce qui est sûr, ouais, c'est qu'on a eu un retard à l'allumage qui n'était pas illogique non plus, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, que ce soit dans l'effectif, dans le staff. On repartait sur un nouveau projet, il a fallu trouver des connexions, de la cohésion, de trouver un peu une ossature type, mm-hmm, avec une organisation aussi qui allait bien se marier avec les forces de l'effectif. Et derrière, on a eu un match charnière qui était notre match à Pau, qui nous a donné de la confiance et qui nous a débridé. Puis derrière, c'est vrai que sur les 12 derniers matchs, on a pris 26 points. Donc c'est vrai que le rythme est bon, mais c'est une division qui est... Qui est capable et où tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc c'est à chaque match un combat. Donc, y a des choses intéressantes quand même dans le développement de mon effectif.
Vous aviez gagné 3-0 à Pau et ça avait été le début d'une énorme série.
C'est ça.
Le reproche qu'on faisait à Sochaux sur les saisons précédentes, ou ce qu'on avait remarqué, c'est que ça manquait un petit peu de profondeur de banc justement pour aller à l'objectif de la montée en Ligue 1. On sent que l'effectif cette saison est quand même assez complet. Vous avez un arsenal offensif notamment qui est très intéressant, Olivier.
Oui, de ce côté, dans le secteur offensif, on est plutôt bien armé. Après... Il faut trouver l'équilibre aussi avec le secteur défensif. Donc il y a une donnée aussi qui était importante en début de saison, c'est que sur les 10 recrues, il y avait quasiment toutes les recrues qui étaient en dette de temps de jeu l'année précédente, c'est-à-dire qui jouaient pas ou peu. Mm-hmm. Ça n'empêche pas la qualité de ces joueurs-là, mais il a fallu aussi du temps pour eux pour retrouver un certain rythme et un certain niveau athlétique notamment. Mais oui, je vous confirme que dans le secteur offensif, on a des joueurs intéressants.
Et puis ce qui est important dans tout championnat, c'est d'être porté par un buteur. C'est votre cas, Ibrahima Sissoko. Il a marqué un tiers de vos buts, 8 buts sur 24 buts inscrits. Ça aussi, compter sur un vrai numéro 9 décisif, c'est crucial, Olivier.
Bah, dans toutes les équipes qui aspirent à jouer le haut de tableau dans n'importe quelle division, il faut un garçon capable de mettre des buts. Donc oui, c'est une arme importante pour nous dans ce secteur-là. C'est pas le seul, mais c'est vrai que en ce moment, il a de la confiance. Je le trouve qu'il s'épanouit aussi dans son jeu. Et puis c'est quelqu'un qui a mis un peu de temps à se mettre en route, mais là il a trouvé un rythme de croisière qui est intéressant.
C'est sûr. Vous avez croisé cette saison la route de Grenoble. On peut en parler avec Vincent Ognon, parce qu'après on va arriver au Grenoblois. Ouais. Grenoble qui est la surprise de ce début de saison quand même, avec cette quatrième place. Vincent, vous avez eu quelle sensation quand vous avez affronté Sochaux, la sensation que vous affrontiez un des favoris pour la montée?
Évidemment, regard à l'effectif et à la saison passée. Non, mais
la preuve, nous a battu 1-0.
Avec deux pénaltys ratés dans le match chacun. C'était l'équipe encore en rodage. Il y a eu beaucoup de changements, il l'a dit, dans cette équipe. C'était pour nous peut-être le bon moment pour les prendre. Mais c'était un très bon match de Grenoble aussi ce jour-là pour nous, et il fallait au moins ça pour espérer un résultat contre Sochaux. Ouais. Mais oui, évidemment, c'est un concurrent féroce pour la montée, parce qu'ils ont quand même ils ont beaucoup, voilà, comme d'autres équipes, mais ils ont quelque chose, ils ont un acquis aussi de la saison passée, et c'est un beau concurrent.
Ils ont beaucoup, mais ils n'ont qu'un point d'avance sur Grenoble, qui est donc quatrième, qui est l'équipe surprise. 5 victoires et 2 nuls sur les 7 dernières journées. Vous avez trouvé la clé, là, ça y est, Vincent. Là. C'est dommage que la saison s'arrête, du coup.
Je ne sais pas, parce qu'on a toujours beaucoup de blessés, comme la saison passée. En revanche, je trouve qu'on a été assez régulier quand même dans nos performances. Le niveau, ce n'est pas forcément élevé beaucoup. Mais on a su être plus efficace et prendre un peu confiance, parce qu'on a trop peu marqué, même encore aujourd'hui, on marque trop peu.
16 buts.
C'est pas assez, mais au début de saison, on a eu vraiment un manque d'efficacité assez important. Pas assez de confiance, et on a eu un tournant certainement contre Caen. À domicile, on a gagné à 10, avec un super but de Jordan Tell qui lobe le gardien. Et à partir de ce moment-là, ça a enclenché une série positive, une dynamique. Et comme j'ai un groupe qui a de la qualité quand même, mais un bon groupe. Voilà, c'est des mecs. Olivier, il connaît les conditions d'entraînement ici. C'est pas luxueux du tout. C'est difficile, mais j'ai un groupe à l'ancienne finalement, qui est pas difficile par rapport à ces conditions, et qui est vraiment un groupe à l'ancienne. Ça joue au tarot et
ah oui,
c'est un peu ce qui nous a aidé aussi. Il y en a plus beaucoup, mais des groupes où ça joue au tarot, mais ça joue encore. Donc j'ai un bon groupe, et c'est certainement ça qui nous donne aussi un peu ces résultats.
Bon, on vous sent épanoui, vous venez de prolonger, on le rappelle, hein, jusqu'en 2025, donc à la tête de ce club.
Oui,
de...
je suis content déjà d'avoir retrouvé la Ligue 2 et le challenge de Grenoble la saison passée, parce que c'est difficile. Tous les entraîneurs qui sont là savent que c'est difficile de trouver des postes.
Vous étiez à Metz,
on le rappelle. Quand on en a un et qu'on est bien quelque part, il n'y avait pas de raison. Et je sentais qu'on pouvait, sur la fin de saison dernière, construire avec nos moyens, parce qu'on a le 15 ou 16e budget, un effectif cohérent. Et je trouve qu'on a un bon effectif et qu'on peut faire une saison intéressante.
Avec une révélation cette saison, c'est Abdoulaye Sangyang. 5 buts, et puis considéré par de nombreux coachs comme Philippe Hinsberger, qui nous l'avait dit dans le premier hors-série de la saison, comme l'un des tout meilleurs du championnat. Quoi. Vraiment un joueur particulier, capable de jouer partout d'ailleurs.
Oui, c'est un joueur rare. Il est arrivé le dernier jour du mercato la saison passée. Il s'était pas entraîné pendant 15 jours. Il a eu un petit bobo musculaire. Mais je peux vous dire que dès les premiers entraînements, dès le premier entraînement, on allait jouer à Quevilly, pour tout vous dire. Et je lui dis, et j'ai eu le dernier entraînement, la mise en place, et il m'a bien enquiquiné à la mise en place de mon équipe. et j'ai voulu tout de suite le prendre dans le groupe, mais il n'était pas prêt physiquement. Et il m'avait dit non, je peux pas. Bon.
Ah, c'est bon,
Oui, c'est rare. Ouais. Ça m'était jamais arrivé. Mais non, il n'était pas prêt à jouer. Il lui a fallu une dizaine de jours pour se remettre à niveau physiquement. Et après, une fois qu'il s'est un peu intégré, franchement, oui, c'est un super joueur. Ouais, c'est un joueur rare.
Ouais, et on a plaisir à suivre ses actions et ses buts, parce qu'il met souvent des buts sublimes. En plus, Abdoulaye.
Oui, bah, il a une capacité à éliminer assez importante. Et puis, c'est cadré, quoi. Voilà, c'est ça qui est bien.
Et puis parlons de Guingamp. Guingamp qui est 11e du championnat. Guingamp, c'est 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Comme ça, voilà, c'est équilibré. Avec Stéphane Dumont, l'entraîneur guingampé. Vous, c'est un peu différent, Stéphane. Vous aviez très bien démarré. Et puis depuis, c'est 4 nuls et 3 défaites, quoi. Donc il faut préciser tout de même, Stéphane, que vous avez affronté de grosses équipes pour terminer cette partie de saison. Ça, c'est important de le signaler.
Oui, mais c'est pas forcément lié à ça. C'est vrai qu'on a eu une très bonne période sur la première partie de la saison, et c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus dur, on a un peu moins de folie, un peu moins d'allant, et certainement un peu moins de réussite aussi. Mais en ce moment on a du mal à faire tourner les matchs en notre faveur, même quand ils sont plutôt de bonne facture à l'image de samedi dernier contre le leader. Donc c'est vrai que on parlait de la trêve tout à l'heure. Je pense que pour nous, elle nous fera quand même le plus grand bien pour casser cette dynamique, surtout pour se régénérer et retrouver beaucoup de blessés.
Il y a cette défaite frustrante, vous l'avez dit, face au Havre, défaite 1-0. Pourtant, une bonne prestation. C'est vrai que quand on est coach, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit on a tenu tête au leader ou on est quand même extrêmement déçu de céder sur un but en fin de match, comme ça, sur un coup de pied arrêté ?
Oui, c'est, bon, on se dit pas qu'on a tenu tête au leader parce que, enfin voilà, on avait. On est surtout frustré de faire en sorte qu'en ce moment, quand on fait des bonnes prestations, on n'arrive pas à les matérialiser par des points. C'est ça le plus frustrant. Parce que. Dans cette période-là, c'est, enfin, on a vu la différence avec une équipe qui est dans une dynamique positive, ce qu'on a pu être en tout début de saison, et une équipe qui est un peu en manque de confiance, hein, avec un manque d'allant, et puis avec pas mal de problématiques dans son effectif. Donc, on a vu cette différence-là, mais malgré tout, on est, ouais, dans un coin de notre tête, on est quand même satisfait de pouvoir avoir ce genre de prestations, parce qu'on est sûr que plus on va les répéter, plus voilà, on va prendre des points.
Ce qui est fou dans votre saison, c'est qu'il y a 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 19 buts marqués, 19 encaissés.
Ouais, on est neutre. On est plutôt moyen.
C'est incroyable.
On est neutre. Ouais. On est capable de battre tout le monde, je pense, mais on est capable aussi de perdre contre tout le monde, un peu à l'image de cette Ligue 2. Et on est. Voilà. Bon, y a eu des matchs bien moins aboutis de notre part qu'on a réussi à valider. Et depuis un petit moment, on a des prestations qui auraient dû nous permettre largement de prendre 3 points à chaque fois, et ça a fait l'effet inverse. Donc c'est vrai que c'est cette façon de, ouais, c'est ça qui est le plus frustrant pour nous aujourd'hui.
On regarde devant, on regarde derrière quand on est Guingamp et qu'on est 11e.
Non, on regarde ni devant ni derrière. On veut juste retrouver de l'allant, une dynamique. On sait qu'on n'est pas loin de tout. Hein, on est en plein milieu. Donc, mais après. Enfin, je ne juge jamais les valeurs d'une équipe à son classement,
ouais.
Que ce soit ceux qui sont en haut ou ceux qui sont en bas, la preuve hein, dans cette Ligue 2. Et donc, non, on essaye simplement de retrouver ce qui faisait notre force la saison dernière et puis sur ce début de saison, tout simplement, mais lié à un contexte général. Et c'est pour ça que je pense que cette trêve nous fera du bien.
Bon, il est bon en communication, David Guillon, Stéphane Dumont. Il a bien progressé, hein, ça y est, c'est un vrai numéro 1.
Il le fait voir toutes les semaines depuis un an et demi qu'il a pris la direction de Guingamp.
Exactement. Et Stéphane, pour la petite anecdote, il y a quelques années, oui. Ludovic Obraniak, votre ami, bossait avec nous sur RMC. Et déjà à l'époque, il nous disait Stéphane a tout d'un numéro 1. Ouais, il le sentait.
C'est gentil à lui.
Il avait trouvé qu'il y avait une âme d'entraîneur principal chez Stéphane Dumont. Voilà.
C'est gentil.
Bon, on vous remercie parce que vous êtes pris par le temps, malheureusement, vous devez aller diriger une séance d'entraînement, donc on vous dit à bientôt et une bonne continuation de saison, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été là.
Un grand merci et merci à tous.
Merci.
À très vite.
On est toujours avec David Guillon, évidemment, avec Olivier Guégan, avec Vincent Ognon, ceux qui se battent pour la montée. Oui, Vincent, on se bat pour la montée à Grenoble quand on est à seulement 2 points du top 2. Je voulais parler avec vous des faits marquants et on est obligé de démarrer par ce naufrage de l'AS Saint-Etienne, hein, Saint-Etienne qui est dernier de Ligue 2 BKT. 11 points, 3 victoires, 5 nuls et cette défaite, un seul succès depuis le 10 septembre. C'est un club que vous connaissez bien en plus, David et Vincent. Donc déjà, Vincent, ça doit vous faire mal au cœur de voir les Verts aussi autant en difficulté, quoi.
Oui, ben on les a déjà vus en difficulté la saison passée. J'étais allé les voir plusieurs fois aussi. Oui, c'est dur. Il n'y a pas grand-chose qui tourne bien dans le club en ce moment. Donc c'est dur pour eux, mais bah, moi, quand je suis arrivé joueur, on était en Ligue 2 et la première année, bah, elle a été difficile aussi. Voilà. Et la deuxième, elle a été couronnée de succès puisqu'on était remonté. Donc c'est des clubs où tout va vite, c'est par moments un peu dans l'excès. Ça peut aller très vite vers le bas, ça peut vous tirer vers le bas si vous n'êtes pas fort, en tout cas mentalement. Mais ça peut surtout vous amener plus haut quand ça commence à tourner dans le bon sens.
Ouais, donc pour vous, rien n'est perdu.
Non, parce qu'ils ont beaucoup pour réussir encore leur saison. Ils ont eu 3 points de moins aussi, il ne faut pas les oublier. Sinon, ils seraient vraiment... je pense qu'ils peuvent faire que mieux sur la deuxième partie de saison. Moi, je ne suis pas plus que ça inquiet. C'est sûr que pour monter, c'est fini, quasiment, je pense.
Ah bah oui,
mais,
oui.
Mais si on est honnête, je pense que eu égard à la qualité des joueurs, de l'encadrement, ils pourront faire que mieux sur la deuxième partie.
Qu'est-ce qu'on se dit d'ailleurs, messieurs, peut-être Olivier, sur le choix justement qui a été annoncé? Bon, il faut, ça reste provisoire évidemment, mais il y a une réunion de crise la semaine dernière et Roland Romeyer a confié qu'on faisait confiance à l'équipe, le staff technique en place, donc à Laurent Batless. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est entraîneur, qu'on traverse une mauvaise passe comme ça? On se dit que on pense justement à son avenir, ou alors on se dit non, j'ai encore les ressources et les leviers nécessaires pour faire réagir cet effectif?
Bah c'est dur, oui, parce que c'est un club comme Saint-Étienne n'est pas programmé pour jouer le maintien ou sa survie en Ligue 2. C'est ça la difficulté, c'est que ce soit l'environnement, les joueurs n'étaient pas programmés pour ça. Après, ils ont quand même des circonstances atténuantes avec les matchs à huis clos, les points en moins. Il a fallu se mettre en route. On sait aussi que Saint-Étienne, c'est un club particulier, surtout dans cette division, et partout où il se déplace, il est attendu. Maintenant, on sait que ça fait partie d'une saison, d'une carrière, de vivre une saison comme ça, et il faut aller à l'essentiel et être très soudés, très solidaires les uns des autres, que ce soit soutenir son coach, parce que c'est important. Ouais. Entamer une dynamique de résultats positifs pour réenclencher quelque chose.
David Guillon, vous qui êtes coach des Girondins de Bordeaux, c'était une situation un peu similaire, hein. Bordeaux qui descend de Ligue 1 en Ligue 2. On a eu peur pour l'avenir des Girondins pendant l'été. Bordeaux a été assuré de son maintien en Ligue 2 la semaine de la reprise. C'était votre crainte à vous, David, justement, de faire un très mauvais début de saison et de devoir gérer tout ça, cette pression populaire à Bordeaux, ou vous n'y pensiez pas à l'époque ?
Non, c'était pas une crainte. À partir du moment où j'étais parti avec tous les gamins et je savais que j'avais 3, 4, 5 garçons qu'allaient pouvoir les encadrer, j'avais confiance aussi dans le travail de mon staff, donc je voulais voir vraiment, au contraire, c'était plutôt un défi. Je voulais voir mes joueurs dans le contexte de la Ligue 2 que je connais assez bien. Ouais. Mais à aucun moment j'ai abordé ça avec de la crainte, plutôt avec de l'envie et puis avec cette volonté de voir mes joueurs devant cette difficulté-là.
On trouve qu'au contraire, ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est qu'il y a eu une nouvelle connexion entre les supporters et le club des Girondins et cette équipe professionnelle. Vous l'avez ressenti aussi, ce soutien populaire, ce nouvel élan populaire qui est de retour au Matmut Atlantique ?
Oui, c'est ça surtout notre grande victoire de début de saison. On sait très bien qu'il y avait une énorme rupture la saison dernière avec nos supporters. Et c'était l'objectif que j'avais fixé à mes joueurs juste avant le match de Valenciennes, le premier match de la saison. Donc en effet, il y a une union une communion qui s'est installée avec nos supporters. Et il y a quelque chose qui s'est mis en place et c'est vraiment très très agréable. Mais c'est grâce à l'état d'esprit de mes joueurs, parce que ils ont montré en termes d'état d'esprit vraiment de très belles choses. Et les supporters se sont reconnus dans les valeurs qu'ils ont dégagées. Et on assiste à des super ambiances au Matmut. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans un club, dans un grand club et dans un club historique avec des grands supporters.
Et puis un club formateur, c'est peut-être ce qui a permis aux supporters de s'identifier, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs formés au club que vous avez pu lancer du coup avec tout ce qui s'est passé en début de saison et qui ont été bons, donc vous l'avez dit, mais ça aussi ça aide à renouer le contact entre les supporters et le club, c'est sûr.
Ouais, c'est assez important. C'est vrai que quand on a fait le bilan la saison dernière et pour enclencher la nouvelle, je pensais que c'était important de s'appuyer sur le centre de formation. On sait la qualité du travail de Patrick Battiston et de son équipe. Donc c'est important, je trouve, de pouvoir utiliser notre centre de formation. Quand on sait l'impact que les Girondins représentent dans la région, et de pouvoir s'identifier avec des jeunes du centre de formation, c'est important, et on le voit avec la réussite de Tchouaméni, ou on le voit aussi avec, avec la Koundé. Réussite de Koundé. Donc l'idée elle est là, c'est de s'appuyer évidemment sur notre centre de formation, tout en amenant de l'expérience à côté, mais de l'expérience avec un très 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 bon état d'esprit. Et je pense que c'est ce qu'on a trouvé avec Vital Nsimba, qui est formé aussi, et puis Johan Barbey, qui est formé aussi ici, mais qui eux ont plus de bouteilles puisqu'ils ont déjà fait une bonne partie de leur carrière.
Et puis on peut citer parmi les bleus qui sont passés par les clubs dont on parle aujourd'hui, Konaté, qui est passé par Sochaux, Olivier Guégan. Et puis Giroud, qui est passé par Grenoble, Vincent Ognaud, il faut le rappeler. Giroud est passé par Grenoble. Ouais, forcément. Justement, je voulais vous parler de l'autre fait marquant, c'est quand même cette saison réalisée par Le Havre. Quelle première partie de saison. Le Havre a perdu une seule fois en championnat. Le Havre a 4 points d'avance sur le deuxième. Ce nouveau projet, en plus, qui est porté par Mathieu Bodmer, directeur sportif, et Luca Elsner, l'entraîneur. Question toute simple, mais Vincent Ognaud, est-ce que vous êtes surpris par la trajectoire des Havrais? Vous aviez accroché Le Havre, vous, dès la première journée. C'était votre premier match de championnat cette saison.
Oui, on avait fait match nul là-bas, 0-0.
Vous aviez senti un potentiel
déjà une bonne équipe.
Face,
Oui, après, pas autant que ce qu'ils font là, parce que j'ai vu beaucoup de leurs matchs et je les ai trouvés en progrès après, par la suite. Et ils ont pris confiance après la victoire à Saint-Etienne aussi, ils avaient eu du mal sur les 2-3 premiers matchs. Mais souvent, j'ai vu pas mal de matchs où c'est logique, c'est une machine bien huilée qui techniquement, d'un très très bon niveau, qui tient le ballon, qui laisse peu d'opportunités à l'adversaire, donc... Sincèrement, sur la qualité des matchs, qu'ils soient devant, c'est pas si surprenant.
Ouais, c'est un de vos prochains adversaires, hein, Olivier Guégan, Le Havre-Sochaux le 10 janvier. Ce sera là un vrai choc de la Ligue 2. Hein.
Mais il y aura Rodez et Bordeaux avant.
Oui, également. C'est vrai.
Mais c'est une équipe qui tourne bien, qui a un rythme très élevé. Après, la saison est encore très très longue, mais pour tout le monde. Donc, c'est vrai que cette trêve va faire du bien à beaucoup de monde, mais bien la réenclencher aussi pour toutes les équipes, ça va être important parce que les 5-6 prochains mois vont être rythmés.
Ah oui, surtout pour Bordeaux, David Guillon, parce que la reprise du championnat, ça sera au Havre, contre Sochaux et à Caen. Donc, d'énormes matchs qui vous attendent fin décembre, début janvier, quoi.
Ouais, et Amiens pour finir cette phase aller. Donc c'est clair que ça permet de bien s'évaluer également, et puis de terminer cette phase aller avec beaucoup d'ambition, bien sûr, puisqu'on va rencontrer que des équipes du haut du tableau. Mais c'est bien aussi que mes joueurs se confronte aussi à ce qui se fait de mieux dans la Ligue 2 pour pouvoir s'étalonner.
David, vous êtes surpris de ce que fait Le Havre, de leur performance et de leur première partie de saison ?
Non, pas surpris par rapport à la qualité individuelle des joueurs. Je trouve que, en plus, ils se connaissent bien. C'est quand même un projet qui date depuis quand même pas mal d'années. En voulant remonter, il y a pas mal de joueurs qui se connaissent déjà pas mal depuis de nombreuses années. Il y a des garçons qui se connaissent depuis le centre de formation. Donc, il y a une vraie connaissance entre eux. Je pense que ce sont des garçons qui, dans le jeu, sont très connectés parce qu'ils ont fait leur formation ensemble, où ils jouent ensemble depuis pas mal de temps. Donc, ils ont rajouté de l'expérience. Donc, c'était vraiment une équipe que je voyais déjà avant le début de la saison tout en haut.
Je voulais vous faire réagir tous les trois à un autre fait marquant, c'est le changement de stade pour Nîmes, hein, le Nîmes Olympique qui est engagé dans cette Ligue 2, qui va a priori lutter pour le maintien. Il y a 4 descentes, on le rappelle, en national à la fin de la saison. Nîmes a dit au revoir au Costières, un stade qui va être détruit. D'ailleurs, son dernier match était face à Bordeaux, David, avec cette victoire nîmoise 1-0. Ils vont aller jouer dans un stade provisoire, le stade des Antonins, jusqu'en 2026. Vincent Ognaud, est-ce que c'est forcément un désavantage pour les Nîmois de quitter les Costières comme ça et de se retrouver dans une enceinte provisoire ?
Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas vu l'enceinte encore, l'enceinte provisoire. Mais au Costières, c'est toujours difficile de jouer. Il y a toujours eu une belle ambiance. Après, sincèrement... quand on a nos habitudes quelque part, on y est bien. C'est comme les stades en travaux, c'est toujours plus difficile.
Bah oui, c'est
donc,
sûr.
Donc, c'est pas forcément simple. Après, là, c'est un stade provisoire, donc il doit être fini. Je peux pas vous dire puisque je l'ai pas vu encore.
Ouais, d'accord. Bah c'est en périphérie, c'est au milieu des champs, ouais. Et puis ce sera une petite capacité a priori. Mais ouais. Olivier, comment vous voyez ça vous pour les Nîmois, le fait de changer de stade comme ça en cours de saison?
Bah je à vrai dire, j'en ai aucune idée. Après, ça va être, je pense que les premiers matchs vont donner aussi un aperçu de leur adaptation, mais changer de, on va dire changer de stade, c'est jamais évident non plus. Parce que aller jouer au Costières, c'est toujours très compliqué. Maintenant, les prochains matchs vont être révélateurs de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place et créer là-bas. Ouais.
David Guillon, l'atmosphère était particulière parce que vous étiez en face lors du dernier match de Nîmes au Costières. Il y avait une ambiance assez singulière.
Ouais, c'était vraiment sympa. Il y avait une superbe ambiance. Le public a vraiment supporté son équipe et c'était vraiment une après-midi avec une ambiance festive et c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que on leur a laissé les 3 points, donc c'était encore plus sympa pour eux, quoi.
Et ouais, donc voilà, Nîmes qui dit salut aux Costières et donc qui ne retrouvera son stade qu'en 2026. On détruit tout et on reconstruit tout, c'est ce qui est prévu là-bas. Et puis je voulais vous faire réagir à un autre fait marquant, c'est le peu de changement d'entraîneur finalement en Ligue 2, messieurs. Seul Laurent Perlade a été limogé de Rodez. À ce jour, à l'heure où on se parle, c'est le seul changement. Évidemment, on verra ce qui se passe pendant la trêve, mais... c'est très différent de la Ligue 1 où là il y a déjà eu 6 changements avant même cette coupure Coupe du Monde. Hein. Auxerre, Brest, Montpellier, 3, Lyon et Reims. On rappelle le règlement de la Ligue 2, il y a 2 montées directes, il y a 4 descentes directes. Comment vous expliquez ça, Olivier? Parce qu'on estime quand même que les coachs font du bon travail, parce que c'est jamais forcément une bonne solution de changer d'entraîneur?
Oui, certainement. Et puis je pense aussi que l'aspect financier des clubs fait réfléchir nos dirigeants. Après, changer d'entraîneur, on le voit sur d'année en année, c'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être qu'il faut mieux renforcer l'effectif que de changer de coach. Donc, c'est une donnée qui est comme ça. Maintenant, on n'est qu'à la 15e journée. Donc,
oui, c'est vrai. C'est que nous, on dit trêve, mais en fait, c'est pas la moitié du championnat. Oui, vous avez raison. Ouais.
C'est exactement.
Et ouais. Vincent, d'accord avec ça? C'est comme ça qu'on explique... cette partie.
Oui, on va pas se plaindre qu'il n'y ait pas trop de changement d'entraîneur, non.
Bah, vous venez de prolonger jusqu'en 2025, donc a priori, bon.
Hein, oui, non, mais c'est plutôt une bonne chose. On essaie de donner un peu de temps. Moi, ça fait même pas un an que je suis arrivé, hein, par exemple, à Grenoble. Mmh. Donc, avoir du temps, ça permet des choses, de faire des choses, de construire. Et comme l'a dit Olivier, je pense que l'aspect financier, en tout cas, renforcer l'effectif, c'est quand même une priorité quand c'est comme ça. Et je pense que la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, au niveau des droits télé, certainement que les dirigeants en première division ont encore plus peur qu'en deuxième division.
Oui, mais on pourrait se dire, David Guillon notamment, qu'il y a peut-être un peu de panique. C'est ce qui se passe peut-être en Ligue 1, c'est qu'on a tellement peur de descendre cette année. C'est vraiment l'année où il ne faut pas descendre avec ces 4 équipes reléguées qu'on cherche tous les moyens justement pour éviter ça, quoi. Créer un électrochoc.
Oui, mais on a quand même un classement qui est très homogène. Je pense que c'est la meilleure solution et la meilleure idée d'amener de la stabilité au niveau sportif, parce que c'est ce qui va permettre certainement à garder les équipes encore compétitives.
Ouais, on rappelle le classement, d'ailleurs c'est important de le faire. Saint-Etienne est 20e avec 11 points, Niort est 19e avec 12 points, 15 points pour Rodez, Nîmes et Dijon qui sont 18e, 17e et 16e et Annecy à 16 points. Donc la lutte pour le maintien sera acharnée évidemment et puis c'est serré en haut et en bas, on l'a déjà dit. On passe tout de suite au talent RMC BKT.
Le talent RMC BKT de la journée.
Alors Olivier Guégan, Vincent Ognon et David Guillon, on a une habitude, une tradition dans Ligue 2 BKT, le débrief, c'est qu'on récompense les joueurs qui brillent dans les multiplexes du samedi soir. On va profiter de cette trêve pour savoir qui vous a impressionné, puisque vous êtes entraîneur, vous êtes au contact des différents joueurs lorsque vous les affrontez. Bah, démarrons peut-être par Vincent. Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné sur ces 15 premières journées de Ligue 2 alors?
Que j'ai rencontré ou pas?
Ouais, bah, que vous avez rencontré ou pas, bah, vous pouvez faire les ou deux pas. Si vous voulez.
Non, je pourrais dire Georges Mikotadze aussi, parce que je l'ai fait jouer une fois 10 minutes en première division à
Metz, bien sûr.
Avec Metz. Eh oui. Et c'est un garçon qui est parti s'aguerrir en Belgique à Seraing, au club filial du FC Metz. Oui. Et il est plein de talent et il confirme. Je trouve qu'il est par moments déroutant et capable de jouer à différents postes. Vraiment beaucoup de qualité. Il a franchi des étapes importantes, je trouve.
On l'a eu la semaine dernière. Ouais. Il a un défaut, c'est qu'il met les buts par trois. C'est-à-dire qu'il peut ne pas marquer pendant cinq journées, mais après, il met des triplés. Donc, il ne faut pas tomber sur Miko Tadze sur un bon jour, quoi.
C'est vrai, quand il est dans un bon jour, ou même dans les séances, dans les duels un contre un, il était très très fort.
Ah, vous aviez senti déjà à l'époque la qualité du joueur?
Oui, beaucoup. D'accord. Beaucoup. Ouais, il était encore assez jeune et on était en première division, mais j'aimais beaucoup ce joueur.
D'accord. Voilà.
Mais on avait fait le choix de le prêter pour s'aguerrir à Serein.
Olivier, quel joueur vous a impressionné, vous, alors?
Le géorgien de Metz, qui est quand même un profil très très intéressant. Après... je trouve que le collectif du Havre aussi est à l'instant T le collectif qui me plaît le plus. Et puis après, pour parler d'un joueur, je vais pas parler d'un attaquant, je vais parler d'un milieu de terrain, je vais parler de Richardson du Havre.
Ah oui, Amir Richardson, qui est très bon sur le début de saison. Yacine Keshta aussi, qui fait une grosse première partie de saison. Et puis Aruna Sangante. En fait, ils sont malins, les Havrais, ils les cachent un peu, mais à force, ça commence à se voir. Le potentiel des joueurs est identifié. Et vous ne m'avez pas dit Dylan Bakwa et compagnie de Bordeaux, quoi. Là, vous auriez pu y aller, mais bon. Ils avancent cachés, ceux-là aussi.
Exactement.
David, qui vous a impressionné, vous, parmi les adversaires?
Moi, je préfère éventuellement par rapport aux garçons que l'on a affronté. Et c'est vrai que je connaissais pas le petit sous-marin de Quevilly.
Ah oui, il s'est sous-marin.
Je trouve que c'est vraiment un garçon vraiment très très intéressant. Il a beaucoup beaucoup de qualités et lui, il est vraiment Quevilly et il s'éclate là-bas. Et je trouve que c'est vraiment un garçon qu'on devrait le retrouver au plus haut niveau.
Ouais, et d'ailleurs, QRM qui fait une bonne saison. Hein. QRM est 13e pour l'instant, c'est un des petits budgets du championnat également. 18 points pour les joueurs de Quevilly-Rouen entraînés par Olivier Chouafny. Messieurs, avant de vous laisser, comment vous allez organiser votre rêve? Alors, les joueurs sont en vacances une dizaine de jours à Sochaux, Olivier? Et puis après, ils vont venir pour un stage?
C'est ça. On reprend le 5, on part en stage... en Espagne avec un match sur place, et ensuite on a deux matchs, l'OL et Clermont. Avant de reprendre avec Rodez.
Ok. Vincent, comment vous organisez-vous? Un stage de ski dans les Alpes?
Non, pas vraiment. vacances, ensuite on reprend aussi le 5.
Ouais.
Et on partira en stage le 11. Du 11 au 18 à hier, mais le 10, on devrait jouer Saint-Étienne en amical, le 9.
Okay.
Et il nous manque un match amical encore pour terminer.
Ah, bon. Bordeaux, voilà.
Donc,
Bordeaux
on n'a pas trouvé
date.
Encore le dernier.
Ah, David, il n'y a pas une date à Bordeaux? On ne peut pas trouver un match amical?
Non. Tout est déjà réglé, donc c'est pareil. Hein. On fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on laisse 2 semaines et puis 3 semaines de travail pour reprendre. Et on partira une semaine en stage, et voilà, quoi. C'est 3 semaines de travail pour préparer ces 5 mois qui sont importants.
Sans donner de nom, messieurs, je suis obligé de faire mon travail, mais est-ce que vous attendez à des petits chamboulements dans vos effectifs? Est-ce qu'il y aura des arrivées à attendre, des départs à Bordeaux peut-être, David? Il y a un joueur comme Albert Ellis qui est peut-être en partance du club.
Le président a parlé de Albert, mais on n'y est pas encore. Il faudra attendre janvier, parce que c'est vrai qu'on pense que comme c'est la trêve, qu'il y a le mercato qui arrive.
Mais non, c'est pas tout de suite.
Et là, c'est pas de suite. Hein. On est qu'en janvier. D'ici janvier, il y a des matchs à appréhender. Donc, on commence tout doucement... à y réfléchir, mais pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté.
Bon. Ça va bouger à Sochaux, Olivier?
Je dis, comme l'a dit David, il y a encore 2 matchs de championnat à vivre avant le début du mercato hivernal. Donc, pour l'instant, on n'a rien de bien, bien ouvert. On est attentif. S'il y a du monde qui sort de notre groupe, on réajustera en fonction. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bien précis.
Bon. Et à Grenoble, Vincent?
La même chose, probablement une forme de continuité encore, et peut-être un ou deux ajustements en fonction des joueurs qui jouent un peu moins. Voilà. Et après, est-ce qu'on pourra se renforcer? en fonction des départs. Donc on verra bien, mais il y a encore des matchs. Il y a un match de Coupe de France et deux matchs de championnat avant le début du mercato.
Vincent Ognon, Olivier Guégan, David Guillon, merci à tous les trois d'avoir été avec moi. C'était passionnant de vous écouter pendant une heure. Voilà le petit œil justement de chacun sur le championnat de Ligue 2. On se régale à le suivre, nous en tout cas, toutes les semaines sur RMC. RMC, c'est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On vous souhaite à tous une bonne coupure, une bonne préparation et revenez en forme pour le 26 décembre. Ce sera la prochaine journée, messieurs, ok?
Ok, merci
à vous.
Au revoir. Merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.
RMC, Ligue 2 BKT, le débrief.